Science en question par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment la vie de tous les jours permet d'entendre la physique ? Lorsqu'il est regardé d'un œil neuf, le spectacle de la vie quotidienne offre maintes occasions de se poser des questions de science. Et il nous invite par là même à tenter d'y répondre. Le monde tout proche, celui que nous fréquentons chaque jour, dès lors qu'il est pris au sérieux, devient vite un immense réservoir pédagogique. Voulez-vous des exemples ? Eh bien, demandez-vous d'où vient que le carrelage de votre salle de bain vous paraisse toujours plus froid que le parquet de votre salon, alors même que les deux sont en réalité exactement à la même température. Ou bien, expliquez-moi comment, en aspirant dans une paille plongée dans un verre de jus d'orange, vous parvenez à y faire monter le dit jus d'orange au mépris de la gravité qui voudrait le maintenir sagement au fond du dit verre. Ainsi emportés par notre curiosité, nous pouvons même imaginer toutes sortes d'expériences étonnantes réalisables chez soi. Faire chanter des vers, marcher sur des œufs, tirer la nappe sous les couverts, tomber plus vite qu'en chute libre, chanter deux mélodies à la fois. Mais pour cela, il faut avoir sous la main un bon professeur. Un professeur qui soit tendance touche à tout. Et j'en ai trouvé un, il s'appelle Jean-Michel Courty. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Jean-Michel Courty, vous êtes physicien au laboratoire Kessler-Bruxelles. Vous êtes professeur à Sorbonne Université. Vous êtes également auteur avec votre collègue Édouard Kirlik de la chronique Idées de physique qui paraît chaque mois dans la revue Pour la science. Et last but not least, vous êtes l'un des quatre lauréats de la médaille de la médiation scientifique, décernée en 2021 par le CNRS. Alors est-ce que je me trompe ou est-ce que vous êtes la superposition très quantique d'un physicien théoricien et d'un sacré bricoleur?
C'est à peu près ça en fait, effectivement, parce que j'effectue mes recherches au laboratoire Kessler-Bruxelles, qui est
un prestigieux laboratoire
spécialiste de physique quantique, et j'ai fait ma thèse sur les propriétés quantiques de la lumière. Bon, et en même temps, j'ai toujours eu envie de vulgariser la science. Et le truc, c'est que quand on est au laboratoire Kessler-Bruxelles, entouré d'autant d'éminentes personnalités qui communiquent aussi bien,
dont des prix Nobel.
Voilà, dont des prix Nobel. C'est un petit peu compliqué de se dire, tiens, je vais aller raconter la physique quantique. Et puis, en même temps, en fait, mon père était prof de sciences nat. Et quand j'étais petit, dès qu'on allait dans la nature, on faisait de l'herborisation, on regardait les cailloux, les plantes, les machins. En Sologne, on allait dans les mares et puis après on regardait au microscope. Et donc, il y a toujours eu l'idée qu'il y a une science passionnante qui est autour de nous et qu'il suffit de se baisser pour la voir.
De s'arrêter, de contempler,
voilà,
de réfléchir.
Contempler comme Henri Fabre, le spécialiste des insectes, qui disait, vous êtes dans la pelouse, vous baissez, puis voilà, il y a un monde fantastique qui est entre vous. Et pour moi, la physique, c'est un petit peu la même chose. Et en fait, c'est ça qu'avec Édouard Kirlik, on cherche à montrer dans notre rubrique Idées de physique. C'est que les lois de la physique, elles s'incarnent partout, tout autour de nous. Et en fait, comme on a décidé de pas vulgariser nos sujets de recherche, en fait, on se positionne comme ce qu'on dit les experts des questions sans experts. En fait, des questions comme le four micro-ondes, pourquoi le carrelage, etc., c'est de la physique. Mais c'est plus de la physique de pointe, de la physique moderne des laboratoires, donc il n'y a pas forcément le spécialiste de la question.
Mais vous avez inventé une sorte de démarche très particulière.
Alors en fait, inventer, ça s'est fait progressivement. La chronique Idées de physique, elle a été créée par Roland Lehoucq.
On a reçu la semaine dernière.
Voilà, donc en fait, il y a plus de 20 ans, il a commencé par créer cette chronique dans la revue Pour la science. C'est un ami que je connaissais bien, je lui ai proposé d'en faire quelques-unes avec lui. Ça s'est bien passé, il a dit pourquoi on ne le ferait pas ensemble ? Parce que faire une chronique tout seul tous les mois, c'est pas facile. Et puis ensuite, il a eu envie de plus développer les aspects science et science-fiction, en fait, sur lesquels il travaille énormément depuis. Et c'est à ce moment-là que j'ai proposé à Édouard Kirlik, ami, de prendre la chronique. Et puis c'est petit à petit où en fait on s'est un petit peu trouvé sur cette question d'experts des questions sans experts, en allant chercher la physique dans le sport, dans la vie quotidienne, dans ce qu'on appelle les nouveaux objets du quotidien. Voilà, le micro-ondes, le téléphone portable, etc. Et puis, voilà, depuis 20 ans...
Est-ce que votre collègue Edouard Kerlik est au courant que son anagramme est Kiki adore le dur?
Ah non, il ne le savait pas encore.
Kiki adore le dur.
Alors ça, je lui...
Vous lui direz. Alors, vous êtes venu, contrairement à la plupart des invités, non pas avec un livre, mais avec du matériel. Je vois des tasses là qui sont sur la table du studio.
Oui.
Des verres.
Oui, parce que
va-t-il se passer?
Parce que comme on dit physique au quotidien, l'idée c'est de faire des expériences et si possible des expériences que tout le monde peut faire à la maison.
Vous avez un couteau
sans aller chercher de matériel. Donc j'ai pris deux tasses et puis un couteau métallique et donc je vais frapper le bord de la tasse avec mon couteau. Alors, première tasse, je frappe un premier endroit. Voilà, mémoriser la note. Et puis, je vais frapper juste à côté. Tiens donc, une note différente. Ici, première note. Ici, une deuxième note.
Oui, mais la tasse a une anse.
Alors voilà, c'est ça qui va nous permettre en fait de comprendre l'affaire. L'idée, c'est que quand on frappe une tasse, on ne sait pas très bien comment elle va vibrer. Quelles vont être la manière dont elle va osciller. Et donc ce qu'on constate ici, c'est que si cette tasse, imaginons que c'est une rose des vents et que je mets l'anse de la tasse au nord. Alors si je frappe au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, j'ai toujours la même note. Et puis si je frappe nord-est, nord-ouest, sud-ouest, etc., j'ai la note qui est un petit peu plus aiguë pour les musiciens.
Mais c'est la même dans les 4 cas.
C'est la même dans les 4 cas. Et alors ça va nous indiquer comment vibre le bord de la tasse. Imaginez en fait que vous ayez devant vous un cerceau que vous tenez entre vos deux mains. Ce cerceau, vous le prenez comme un volant de voiture, donc une main à l'est, l'autre main à l'ouest. Si vous poussez les deux mains l'une vers l'autre, vous allez avoir le nord et le sud qui vont monter, qui vont s'éloigner, et puis si vous écartez, l'est et l'ouest se séparent, et le nord et le sud, ça se rapproche. Et si vous faites ça périodiquement, en fait, ça vous fait une oscillation de ce cerceau. Et vous voyez que quand on fait ces oscillations, les points qui sont au nord-est, nord-ouest, sud-ouest, etc., eux, ils restent immobiles. Ils bougent pas. Et puis, ce que je peux faire, c'est que je peux tourner mon cerceau d'un quart de tour, refaire le même mouvement, et là, c'est l'inverse. Les points qui étaient avec des grands mouvements sont immobiles, et réciproquement. Et donc, ce qu'on va faire quand on va frapper la tasse, soit je fais vibrer le mode où je suis nord-sud-est-ouest, soit le mode à 45 degrés. Et il se trouve que l'anse de la tasse, comme elle est au nord, quand je fais vibrer le premier mode, ça fait bouger à l'endroit où il y a l'anse, alors que si je fais bouger à 45 degrés, l'anse, elle est immobile. Donc, autrement dit, l'un des modes de vibration va être plus lourd. Et on sait que pour les oscillateurs, en fait, quand on augmente la masse, on augmente la période, on réduit la fréquence. Et donc, on va avoir une note qui va être plus grave quand on va frapper à côté de l'anse que quand on frappe écarté.
Et qu'est-ce qui se passe si on met de l'eau dans la tasse?
Alors, si on met de l'eau dans la tasse, ce qu'on sait, c'est que progressivement, on va avoir la note qui va changer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en rajoutant de l'eau, quand la paroi de la tasse vibre, elle va entraîner avec elle l'eau qui est juste à côté. Donc quand je mets de l'eau juste au fond de la tasse, en fait, il se passe vraiment pas grand-chose parce que le fond de la tasse, ça bouge pas. Et puis plus je vais rajouter de l'eau, plus ça va se rapprocher de la zone qui vibre vraiment beaucoup, qui est en fait le haut de la tasse, ça va alourdir et donc la note va être plus grave.
Donc c'est quand le verre est presque plein que la modulation est la plus forte.
Alors voilà, la note, elle est le plus grave possible quand le verre est presque plein.
Mais si au lieu de mettre de l'eau dans la tasse, on mettait la tasse dans l'eau?
Alors voilà. Ça, c'est en fait une expérience que j'ai réalisée sur ma chaîne YouTube, que j'avais trouvée dans une publication.
Oui, je n'ai pas dit
que
vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle Merci la physique.
Voilà.
Que vous auriez pu intituler Miracle physique.
Ah oui.
C'est l'anagramme.
Ah ben voilà. Ça je vais l'utiliser. Et donc, que je fais avec ma femme Cécile, qui n'est pas du tout physicienne. Et donc, ça veut dire que ça fait... elle est là, elle me... ça fait le candide de l'étape, elle me pose des questions, etc. On s'amuse bien à faire de la physique tous les deux.
Et donc la tasse, on la trempe dedans.
Et donc le truc, c'est que ça a le même effet que quand on met l'eau à l'intérieur. Sauf que l'avantage, c'est que quand l'eau elle est à l'intérieur, on peut verser de l'eau, mais c'est compliqué de l'enlever. Alors que quand on met la tasse, qu'on la trempe, la tasse vide, et que on la monte et on la descend, ou avec un verre en fait aussi qu'on fait chanter avec le doigt, eh bien, on va pouvoir bouger pendant qu'on émet la note.
Elle est plus ou moins profonde, enfin plonge.
Voilà,
dans
on la plonge plus ou moins profondément.
Ça change la note.
Et donc à ce moment-là, ça fait des sons du style un peu comme les scies musicales. En fait, on peut avoir des notes qui font oui, voilà.
Mais vous avez des précurseurs, vous avez notamment ce grand physicien, qui était aussi homme politique, Benjamin Franklin, qui avait réalisé une sorte d'harmonica avec des tasses et des verres aussi.
Tout à fait. Il y a eu des harmonicas à verres. Alors vous en avez certains où c'est les verres qui sont côte à côte, qui sont accordés, et puis on frotte avec le doigt pour les faire marcher. Mais cette harmonica, en fait, c'était une tige horizontale, et puis les verres étaient les uns à côté des autres sur cette tige, mais avec l'axe du verre qui est selon l'axe qui tourne. Donc en fait, vous aviez des trucs qui étaient une sorte de cylindre qui était en rotation, et en fonction de l'endroit où on mettait le doigt, on pouvait choisir le verre qu'on allait faire vibrer, et on n'avait pas à bouger le doigt sur le bord du verre, puisque c'est le bord du verre qui bougeait en dessous.
Mais vous avez amené d'autres tasses, est-ce qu'elles sont différentes? Est-ce qu'elles disent des choses supplémentaire après
alors en fait
ce que vous avez raconté?
C'est justement pour montrer qu'il se passe la même chose, sauf que celle-là par exemple, elle est un petit peu plus aiguë que la précédente, celle-là. Mais l'effet toujours le même. Alors ensuite, ça faut tester avec les tasses. Ça marche pas forcément super bien avec toutes. Pour certaines, l'écart il est un petit peu faible, on l'entend pas bien. Donc j'ai choisi les tasses qui fonctionnaient le mieux.
Vous êtes en quelque sorte un héritier de Benjamin Franklin, parce que lui aussi faisait des expériences comme ça. Un jour, il a versé une cuillère à café d'huile sur la surface d'un étang qui était près de Londres.
Ouais.
L'étang Clapham, et il s'est aperçu que la tache d'huile s'étendait sur une surface de 2000 mètres carrés.
Oui, oui.
Et son ami, un autre physicien, Lord Rayleigh, a montré que ce résultat démontrait que les molécules avaient une taille inférieure à un nanomètre.
Oui, oui, oui. Et ça permet de mesurer la taille des molécules. C'est d'ailleurs une expérience que j'aimerais bien refaire pour ma chaîne. Et en tout cas, qui a été refaite récemment par deux physiciens sur une chaîne YouTube. Donc c'est en anglais. Donc si on veut la trouver, il faut chercher Rayleigh, Franklin, Experiment. Et on la trouve, et c'est assez impressionnant parce qu'en fait quand on a une couche d'huile sur l'eau, ça supprime toutes les petites ridules qu'il peut y avoir, et on a de l'eau qui est une surface d'eau qui est parfaitement plate.
Est-ce qu'on peut résoudre la deuxième question que j'ai posée dans l'introduction quand on aspire du jus d'orange avec une paille? Est-ce que le mot aspirer est légitime?
Alors, ce qu'on fait, c'est que oui, on aspire l'air qu'il y a dans la paille. Donc, il y a bien une question d'aspiration. Mais en revanche, l'air, le gaz, c'est quelque chose qui n'a pas de cohésion. Donc, quand on a une corde, si je tire sur la corde, ce qui est au bout de la corde, ça va venir parce que j'ai la force que j'exerce à un bout de la corde qui se transmet à l'intérieur de la corde, d'atome en atome. En revanche, quand j'ai un gaz, les molécules, elles se baladent, elles sont pas liées les uns aux autres. Donc, si j'enlève des molécules, ça va pas tirer vers les autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait, en fait, quand on aspire sur la paille? C'est qu'on réduit la pression, on enlève du gaz au-dessus de l'eau qu'il y a dans la paille. Et en fait, il faut voir la paille comme un système double. C'est-à-dire qu'en même temps que moi, je réduis la pression à l'intérieur de la paille, eh bien, il y a la pression atmosphérique qui continue à appuyer sur la surface du verre. Et donc, c'est la pression atmosphérique qui appuie sur le verre, qui va faire remonter l'eau dans la paille.
Mais les anciens avaient une autre explication. Ils disaient, la nature a hors du vide. Si j'aspire dans la paille, ça va créer du vide. Et la nature qui a hors du vide demande au jus d'orange de monter dans la paille pour empêcher que le vide se manifeste.
Oui, mais en fait, ils disaient ça parce qu'ils n'avaient pas des pompes suffisamment bonnes pour faire du vide.
Oui,
le point est venu que quand on a été capable d'avoir des pompes qui faisaient suffisamment le vide, eh ben, on s'est mis à avoir des problèmes parce qu'effectivement, on réussissait à faire ce vide.
Donc, c'est le différentiel de pression entre l'extérieur de la paille et l'intérieur de la paille qui crée cette force qui va de bas en haut.
Voilà.
Mais alors, si j'étais une girafe, et la girafe, elle doit bien aspirer l'eau d'une mare pour se désaltérer.
Oui, oui.
Donc, est-ce qu'elle utilise son cou comme une paille?
Ben, pas vraiment. Alors, on pourrait l'imaginer, mais le point, c'est que là, quand même, il faut que ça monte sur 2 mètres de haut.
La longueur du cou.
Et donc, les parois, pour avoir un tuyau et aspirer sur le tuyau, il y a l'eau à l'intérieur, mais il y a aussi l'air qui appuie, et puis la matière qu'il y a dans le cou de la girafe qui appuie sur ce tuyau. Et ça, c'est la pression atmosphérique. Donc, dès qu'on va commencer à faire de vide dans l'œsophage, eh ben, l'extérieur, ça va appuyer, et le tuyau va s'aplatir sur lui-même. Si on fait ça avec l'expérience avec un tuyau souple, eh ben, on voit que quand on a un tuyau trop long qu'on veut aspirer dessus, le tuyau, il s'aplatit, et on peut pas aspirer.
Donc si la girafe faisait le vide dans son cou, le cou se contracterait.
Voilà, le cou se contracterait et pourrait plus rien faire. Et donc, en fait, il y a une astuce diabolique. Alors, première idée, ce serait de se dire, je prends de l'eau dans la bouche et puis je relève la bouche. Mais alors, ça fait des mouvements considérables. 5 mètres de haut, en plus, avec des différences de pression considérables, le système sanguin, faut adapter la pression dans le cerveau, etc. Enfin, vous savez, quand on se lève, on peut avoir des étourdissements. Bon, bah là, imaginez la girafe, méga étourdissement. Et donc, pour ne pas faire ça, ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise sa bouche comme une pompe. En fait, ce qu'on appelle une pompe à refoulement, c'est-à-dire qu'elle va remplir sa bouche d'eau et ensuite fermer les lèvres et avec la langue, repousser l'eau qu'elle a dans la bouche dans son œsophage. On bouche l'œsophage et on recommence. Et en faisant ça une vingtaine de fois de suite, eh ben, elle va réussir à remplir l'œsophage d'eau. Ça fait à peu près 5 litres. Une fois que l'œsophage est plein d'eau, elle va relever le cou, l'eau est bue. Et comme ça, en 5 ou 6 fois.
Et elle boit combien de litres par jour ?
Alors, je crois que c'est 40 litres par jour. Hein. Okay. Ouais, c'est ça, 40 litres d'eau, une capacité, voilà. Donc, alors que dans la bouche, il y a seulement 0,3 litres. Donc, voilà.
Ce serait... Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle a inventé la pompe à piston ?
Exactement, c'est ce qu'on appelle la pompe à refoulement. Oui, c'est, elle a vraiment inventé cette pompe-là. Et pour en être sûr, il y a un scientifique qui a fait avec une radio, avec les rayons X, hein, pour voir ce qui se passait dans la girafe pendant qu'elle buvait. Et c'est comme ça qu'on a vraiment compris que c'est ça qui se passait.
Bon, ça doit pas être simple de faire ce genre d'opération.
Non.
Alors, Jean-Michel Courtier, en vous lisant, j'ai découvert qu'on peut tomber plus vite qu'en chute libre, alors que j'ai appris à l'école que tous les corps tombent à la même vitesse. Il y en a qui peuvent tomber...
Alors après, la question là-dessus, c'est vrai qu'en disant ça, on triche un petit peu. C'est-à-dire que quand on dit qu'on va tomber plus vite que la gravité, ça va être soit que c'est pas le corps tout entier, l'objet qu'on considère tout entier qui va tomber à cette vitesse, soit qu'on a fait d'autres choses.
Alors, ouais. Vous aimez jouer avec les paradoxes.
Voilà.
Qui t'a triché un peu.
Ouais, mais là c'est pas de la triche. C'est l'expérience. Alors l'expérience qu'on peut faire, il y en a plusieurs, mais l'expérience pour laquelle d'ailleurs il y a la dernière vidéo de la chaîne Merci la physique qui est consacrée avec des ralentis, c'est de prendre un slinky. Alors ce qu'on appelle les slinky ou ça s'appelle aussi ondulo, c'est des sortes de grands ressorts tout mous, c'est un jouet, oui, un ressort tout mou que en général on utilise pour lui faire dévaler les escaliers. Vous savez, on prend un bout, on fait partir l'autre bout, puis il y a le ressort qui se dévide, et puis après, le bout qui saute, qui descend la marche, etc., ça descend tout seul. Donc là, l'idée, c'est de prendre ce grand ressort, et puis de le suspendre par une extrémité, et de monter suffisamment haut pour qu'il soit totalement en l'air. Et donc, à ce moment-là, comme le ressort, il est très mou, on va avoir le ressort qui, en haut, va être extrêmement tendu, avec les spires très séparées, et puis au fur et à mesure qu'on descend, eh ben, y a moins de poids à supporter, et donc les spires se rapprochent jusque le bas du ressort, qui est juste maintenant.
Et la hauteur totale, c'est à peu près 2 mètres?
Alors moi, j'en ai un gros, c'est 2 mètres, après il y en a, ça peut être 1 mètre, il y en a 3, enfin voilà. Mais typiquement, pour que ça se voit bien, c'est avec ce 2 mètres qu'on peut faire ça. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lâcher l'extrémité supérieure. Et ce qu'on constate, c'est qu'on constate deux choses en même temps. Si on regarde le bas du ressort, en fait...
La spire la plus basse.
La spire la plus basse, eh bien, elle ne tombe pas instantanément. En fait, le ressort se replie sur lui-même. Progressivement, les spires du haut, elles descendent et puis elles s'empilent progressivement jusqu'à ce qu'on arrive à la spire du bas. Et à ce moment-là, là, ça va tomber. Donc le premier point, c'est qu'en fait, le bas, il va tomber quelques fractions de secondes après le haut. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, tant que le ressort reste tendu, quand je lâche, il y a la spire du haut qui va descendre, mais en fait, le ressort, il reste tendu en bas. Donc ça continue à soutenir la spire inférieure. En revanche, qu'est-ce qui se passe en haut ? Bah, on voit que la spire du haut, la spire la plus en l'air, au début, quand je la tenais, eh ben moi, je tirais une force vers le haut qui était le poids total de mon ressort, et donc ça veut dire que le ressort tendu tirait vers le bas cette spire d'une force égale. Et donc maintenant, quand je lâche la force du haut, quand je lâche la spire du haut, en fait, la spire qui est très légère, elle est soumise à une force vers le bas qui est le poids du ressort tout entier. Et donc elle va tomber beaucoup plus vite que la gravité. Et ensuite, alors donc ça veut dire qu'on a une partie du ressort qui tombe pas, l'autre partie qui tombe bien plus vite que la gravité, et en fait la physique est sauvée parce que si on regarde le centre de masse du ressort tout entier, lui il tombe exactement à la bonne vitesse.
Alors, par exemple, qu'est-ce qui se passe si au moment où je lâche ce slinky, ce ressort, je lâche en même temps une boule de pétanque?
Voilà. Et ben alors ce qui se passe, c'est que c'est assez
laquelle va arriver en premier, bas?
Alors c'est le slinky qui va arriver en bas parce que en premier parce que son centre de masse il est plus bas que la boule de pétanque. En fait, quand on lâche,
il y a moins de distance
à parcourir. Voilà.
Mais l'accélération est la même globalement.
L'accélération sera la même. Par contre, ce qui est impressionnant quand même, c'est que quand on fait ça, le haut du ressort descend tellement vite qu'on a l'impression que la boule de pétanque, elle reste suspendue en l'air un instant. Et on a presque l'impression d'être comme dans un dessin animé où vous avez le coyote qui est au-dessus de la...
Qui est dans le vide et
qui fait un certain temps pour qu'il tombe. Et quand on fait l'expérience, c'est vraiment l'impression visuelle qu'on a, que l'objet qu'on met à côté, en fait, il attend pour tomber. En fait, c'est parce qu'on a une fausse référence à côté et que, bon ben voilà, ça c'est tiré vers le bas.
Troisième petite colle, Jean-Michel Courty. Quand je marche pieds nus sur le carrelage de ma salle de bain, il me paraît plus froid que le parquet de mon salon, alors qu'ils sont à la même température.
Oui.
D'où ça vient?
Alors, avant de vous répondre, je vais vous dire, ça c'est l'hiver. En revanche, si vous faites ça l'été, que vous êtes sur une terrasse et que vous avez du carrelage et du bois, vous allez vous brûler les pieds sur le carrelage et vous allez avoir sur le bois quelque chose qui va. Quand vous allez dans un sauna, vous pouvez aller sur le bois du sauna, il n'y a pas de problème. Alors que quand vous prenez les objets, si vous touchez un objet métallique, vous allez vous brûler. Alors c'est quoi la différence entre les deux? C'est en fait que le bois, c'est un isolant, alors que le carrelage ou le métal, ce sont des bons conducteurs de la chaleur. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous touchez avec votre main le bois? On va dire qu'on est à température ambiante. Le bois est à 20 degrés, vous touchez avec votre main qui est plus chaude, hein. Donc, la chaleur va passer de votre doigt au bois. Mais comme le bois est un isolant, en fait, très rapidement, vous allez chauffer un petit volume qui est au contact de votre doigt, et très rapidement, la zone que vous allez toucher va être à la température de votre corps. Alors que le reste du bois, lui, il est resté à la même température. Et donc, ce que vous touchez, ce que vous sentez, c'est pas la température du bois. En fait, c'est la température du bois que vous avez réchauffé avec votre doigt. En revanche, si vous prenez du métal ou du carrelage, ce sont des très bons conducteurs de la chaleur. À ce moment-là, quand vous mettez votre doigt, la chaleur va passer de votre doigt au métal, et ensuite va partir dans le métal entier. Donc conclusion, vous allez très très peu chauffer l'entièreté du morceau de métal. Et donc il va falloir repomper de la chaleur. Et donc là, le résultat, c'est qu'en fait, le métal va refroidir le bout de votre doigt, et donc vous allez sentir le froid. Et donc, ce qui se passe, c'est que, première situation, vous sentez chaud parce que vous avez réchauffé, vous sentez froid parce que là, c'est le métal qui a refroidi votre doigt.
Alors, supposons qu'on soit en hiver. Donc, le carrelage ou le marbre me paraîtra plus froid que le bois.
Tout à fait.
Maintenant, je prends deux glaçons.
Ah oui.
Il y en a un que je pose sur une latte de parquet en bois et l'autre que je pose sur le marbre. Lequel va fondre le plus vite?
Alors, si je pose le glaçon sur le bois,
qui est en apparence plus chaud.
Qui est en apparence plus chaud. Le point, c'est que, vous allez avoir l'énergie de la couche supérieure du bois qui va commencer à faire fondre un petit peu le glaçon. Et puis cette couche supérieure, elle va se refroidir, et elle va être à 0 degré. Et puis l'énergie qui est dans le reste du bois, va mettre beaucoup de temps pour arriver. En revanche, si je le mets sur la plaque métallique,
Ou le marbre.
Si je le mets sur le marbre, la surface du marbre va chauffer le glaçon, ça va le faire fondre. Mais la chaleur du reste du marbre, par conduction thermique, ça va continuer à arriver à cet endroit-là. Et donc, on va réussir à faire fondre le glaçon pratiquement à vue. Je veux dire, en quelques dizaines de secondes, le glaçon va fondre.
Sur le marbre, beaucoup plus vite que sur le bois.
Tout à fait.
Que sur le bois. C'est assez contre-intuitif.
C'est contre-intuitif, mais c'est utilisé par les cuisiniers pour décongeler. Vous pouvez utiliser ça pour décongeler les roast beef. Ou les gigots, il y a des trucs qui s'appellent des plaques de décongélation. Donc c'est des grosses plaques métalliques. Vous posez dessus l'aliment congelé et en fait, en attendant une dizaine de minutes, vous allez pouvoir décongeler votre plat en utilisant la chaleur qui était stockée dans cette plaque.
Est-ce que vous faites du vélo, Jean-Michel Courty?
De temps en temps. De temps en temps. Plus j'en eus fait en Beauce. Et qu'on me dise pas que c'est facile en Beauce parce que c'est plat. Parce que en Beauce.
J'allais le dire.
Il y a du vent. Oui, 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 mais je peux vous dire, il y a du vent. Et voilà.
Oui, mais on peut rouler dans le sens du vent.
Alors, exactement, on peut rouler dans le sens du vent.
Mais rentrer.
Alors, il faut rentrer. Donc, la première chose qu'on apprend quand on fait du vélo en Beauce, c'est que on commence par aller contre le vent. Et puis après, on revient poussé par le vent.
Alors quand on regarde une course cycliste, on voit qu'il y a des pelotons qui se forment, ou un peloton en général qui se forme, et on accuse parfois certains coureurs de sucer la roue pour se ménager.
Oui, alors on peut.
Comment ça s'explique?
Alors en fait, on peut les accuser de ça, ou quand on voit les coureurs sur piste, etc. C'est aussi une manière d'économiser l'énergie pour aller plus vite. Alors en fait, dit rapidement, celui qui est devant protège. Ceux qui sont derrière des frottements de l'air. Alors, pour être plus précis, et bien comprendre, le mieux, c'est de s'imaginer dans le peloton avec les cyclistes et de se dire, je suis avec mon vélo et puis comme je vais vite, j'ai comme si j'avais du vent qui arrivait contre moi. Alors, ce vent va exercer une force sur moi. Pourquoi? Parce que je suis un obstacle. Je vais ralentir le vent, et donc le vent va exercer une force sur moi. Maintenant, quand vous regardez derrière une pile de pont, vous avez des petits tourbillons. En fait, le courant ne reprend pas trop. Donc, si c'est ce qui se passe derrière chaque cycliste. Derrière chaque cycliste, en fait, le cycliste va emmener avec lui une partie de l'air. Et donc, si vous avez le second cycliste qui vient se mettre très proche du premier, et qui va se mettre dans l'endroit où justement le premier cycliste a commencé à emmener l'air, et ben ça veut dire qu'il va avoir moins d'air lui à emmener avec, et donc que la force de frottement,
comme s'il était en altitude, alors avec une pression plus faible.
Exactement, on peut voir ça, sauf que cette différence de pression, ça dépend de la vitesse à laquelle va le premier cycliste. Et ensuite, donc il y a un Hollandais qui est le professeur Blokken, qui a fait énormément d'expériences dans des souffleries. Et alors beaucoup des travaux en soufflerie habituellement c'est sur la position des coureurs, savoir la position aérodynamique. Ce qu'a fait Blokken, c'est que lui il a pris des maquettes de coureurs à la taille un quart, et puis il a regardé ce qui se passait quand je mettais un coureur, deux coureurs l'un derrière l'autre, trois, quatre, puis un peloton. Et alors, ce qu'il a vu, c'est que, déjà, si je prends un deuxième coureur derrière le premier, il va avoir une réduction d'à peu près 35% de la force de frottement. Donc, il a 35% de moins d'énergie à dépenser. Et puis, le deuxième, en fait, hein, comme il y a les deux premiers, ça fait un ensemble qui est un peu plus gros, il va être mieux protégé. Donc, 55%. Et puis, après, ça se stabilise au bout du quatrième et cinquième. Donc ça déjà, on voit ce qui se passe quand on a les coureurs qui sont en file l'un derrière l'autre. Ensuite, un truc intéressant, c'est qu'il a regardé ce qui se passait dans un peloton. Où là, les coureurs, non seulement ils sont l'un derrière l'autre, mais ça s'écarte au fur et à mesure. Et là, ce qu'il montre, c'est qu'au milieu du peloton, les coureurs, ils sont protégés, il reste pratiquement plus que 5% de la force de frottement. Donc en gros, sachant que quand on roule sur du plat, l'essentiel, et voilà, c'est comme s'il y avait aucune force, il a pratiquement 5% de l'énergie à.
Mais ça n'a pas d'effet sur sa respiration, sur le fait qu'il pourrait être presque en apnée?
Ben non, parce que là le truc c'est que c'est juste une différence de pression entre l'avant et l'arrière. Donc pour lui, il y a pas de souci par rapport à ça.
Alors, qu'est-ce qui se passe pour celui qui est le premier du peloton? Est-ce qu'il est avantagé par le fait que derrière lui, il y a un peloton, ou est-ce que c'est comme s'il était seul au monde?
Alors, on pourrait se dire que c'est comme s'il est seul au monde. Le truc, c'est qu'en fait, quand vous avez, si vous avez le deuxième, vous imaginez, il y a un deuxième coureur qui arrive. À l'avant du deuxième coureur, va y avoir une surpression. Ben, quand le deuxième coureur se rapproche suffisamment du premier, en fait, il va y avoir cette surpression qui va arriver à l'arrière du premier coureur, donc ça va être un petit peu comme si le deuxième coureur poussait le premier. Et donc, en fait, le premier coureur, il va gagner 1,5%. La force à fournir va être 1,5% plus faible. Alors vous allez me dire, 1,5%, c'est pas énorme, etc. Ce qu'il faut voir, c'est que cet effet-là, ça existe aussi s'il y a une voiture qui est derrière. Et 1,5%, c'est l'effet d'une voiture 5 mètres derrière le coureur. Bon, bah, imaginez que dans une course contre la montre, vous ayez la voiture suiveuse qui soit 5 mètres derrière le coureur. Ça veut dire que il a 1,5% de moins d'énergie à fournir. Et donc, il va gagner 20 secondes sur son contre-la-montre.
Donc, il est poussé à distance.
Il va être poussé à distance. Et donc, c'est pour ça que c'est, heureusement, c'était pas la raison initiale. C'était pour des raisons de sécurité. Mais la voiture suiveuse doit être à au moins 10 mètres derrière. Heureusement, parce que sinon, ça favoriserait les coureurs en les poussant.
Donc on peut gagner une course cycliste sans être le coureur qui a dépensé le plus d'énergie.
Ah oui. Ah bah oui, c'est de toute façon...
Est-ce qu'on pourrait imaginer d'inverser les règles et d'être capable de mesurer l'énergie dépensée par chacun des coureurs et de proclamer vainqueur celui qui a le plus dépensé. Par exemple, celui qui a fait une échappée...
Ouais, on pourrait, mais tout ce qui fait le sel du cyclisme, c'est quand même la tactique. C'est justement de réussir à être celui qui dépense le moins d'énergie. C'est un peu comme au poker, hein. C'est celui qui gagne, c'est pas forcément celui qui a la meilleure main. C'est celui qui réussit à faire croire aux autres qu'il a la meilleure main, des fois.
Mais le fait de bien connaître l'aérodynamique donne un avantage sportif.
Alors ça, c'est clair. Donc, pour ce qui est des cyclistes, bon, il y a toute l'expérience, l'intuition, les sensations qui sont là. Il se trouve que, je pense que ça vaut quand même le coup d'étudier, parce que si on regarde aux derniers Jeux Olympiques, les Pays-Bas ont quand même fait une razzia assez terrible sur le cyclisme sur piste.
Ils ont des physiciens dans l'équipe.
Bah, c'était pas une nation qui habite. Je veux dire, il y en avait, mais on avait les Australiens, les Anglais, les Français qui étaient très forts. Puis là, ces derniers temps, il y a les Néo-Zélandais qui arrivent. Et moi, je pense que Monsieur Blocken, dont on a parlé des travaux, a eu une importance sur le sujet. Parce que il a justement fait des travaux qui étaient originaux par rapport à tous les autres. Comme je disais, ce que les gens étudiaient jusqu'à présent, c'était l'aérodynamisme d'un cycliste. Il se trouve que lui, il a étudié les effets collectifs. Et donc ça, c'est super important pour tout ce qui est le cyclisme sur piste.
Est-ce que vous avez remarqué une différence dans la façon de courir des Hollandais, par exemple, par rapport à d'autres nations ?
Alors ça, je suis pas suffisamment spécialiste pour m'en rendre compte. Et puis après, dans ces points-là, on arrive aussi sur, j'allais dire, sur un petit peu des détails. Hein. Ça veut dire sur les positions, sur le détail des positions, sur les formes des casques, sur les formes des sections, des cadres de vélo. Donc bon, là, je suis pas suffisamment spécialiste du vélo pour ça.
Jean-Michel Courtier, vous avez écrit un article qui m'a passionné sur un paradoxe que je ne connaissais pas, qui s'appelle le paradoxe de Bryce.
Bryce, oui, oui.
Qui est un physicien allemand, je crois, qui a étudié cela en 1968,
oui.
Et qui a montré, il faudrait pas que ça donne des idées aux maires des grandes villes, mais qu'on peut fluidifier le trafic en condamnant des routes.
Oui, oui.
Des rues.
Oui, tout à fait. Alors, juste d'un point de vue, ça s'est vérifié expérimentalement quand il y a eu certains événements et manifestations aux États-Unis autour de Times Square, où il y a des rues qui ont été fermées. Et on s'est aperçu que le trafic avait été amélioré dans tout. Les gens pensaient que le fait de fermer ces rues, ça allait faire des embouteillages encore pires, parce qu'on supprimait des voies de circulation. Et en fait, ça a fluidifié la circulation autour.
Alors, peut-être parce que les gens étaient informés qu'il y avait un blocage.
Non, c'est toute chose égale par ailleurs. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont, il y avait eu des mesures du trafic total, etc. Alors oui, ce paradoxe, il y a plein de versions. Il y a la circulation et puis il y a une version mécanique, en fait.
Mais comment on l'explique ?
Alors comment on l'explique ? Alors
de façon générale.
De façon générale, c'est un truc théorie des réseaux. Alors ce qu'on peut, c'est s'imaginer. Imaginez que vous avez une première ville. Vous avez une ville A, une ville de départ, et une ville d'arrivée. Et puis, pour aller de cette ville à l'autre, vous avez deux chemins possibles. Le premier chemin, vous allez avoir une autoroute qui va super vite. Et puis, après, vous avez une petite route de montagne. Et puis, la deuxième
possibilité.
La deuxième possibilité, c'est une autre montagne. Donc, vous commencez par un truc de montagne et puis après, vous finissez par une autoroute. Donc, au final, ces deux chemins... Ces deux routes, elles sont même longueur,
équivalentes.
Même équivalentes. Et puis en fait, c'est les deux routes. À un moment donné, le passage de montagne à autoroute, c'est proche l'un de l'autre. Donc vous dites, tiens, je vais rajouter une petite bretelle qui rejoint la partie entre.
Donc la première possibilité est connectée à la deuxième possibilité.
Je connecte la première à la deuxième au milieu.
Avec un petit pont.
Avec un petit pont. Alors là, les gens, ils se disent. Ben oui, mais bien sûr, il suffit que je prenne l'autoroute avec la première route pour commencer, je prends le petit pont et puis je finis le trajet par l'autoroute de la deuxième.
Je fais que de l'autoroute.
Je fais que de l'autoroute, j'y vais bien. Alors effectivement, s'il n'y a pas beaucoup de circulation, eh ben à ce moment-là, effectivement, le trajet, il est beaucoup plus rapide. Le problème, c'est que quand vous allez avoir de plus en plus de gens, ben, quand vous avez deux routes, vous avez la moitié des gens qui vont sur l'une, la moitié qui va sur l'autre. Si là, tous les gens, ils veulent prendre le même chemin, ben, arrivé à un seuil, ça va faire créer un embouteillage. Et donc, vous allez avoir un temps de trajet qui va être plus grand, parce que à cause de l'embouteillage, le fait de prendre l'autoroute, ça vous pénalise. Et le problème, c'est que les gens, si vous leur dites « Ah mais oui, mais alors, spontanément, les gens, ils vont pas prendre le chemin de la petite route de montagne. Ils veulent tous prendre l'autoroute. » Et donc, ce qu'il faut, c'est les obliger à se répartir moitié-moitié dans les chemins, en coupant le petit pont du milieu. Et alors ensuite, eh ben, il y a un analogue mécanique, donc j'invite les spectateurs à aller voir sur la chaîne vidéo. Sur ma chaîne vidéo YouTube. Ça
merci
s'appelle
la physique.
Un paradoxe mécanique, où j'ai un système où j'ai suspendu une canette de soda à l'aide de ficelles et d'élastiques. Et puis, quand on coupe la ficelle du milieu qui tient les choses, eh bien à ce moment-là, la canette de soda remonte.
C'est complètement contre-intuitif.
C'est total contre-intuitif, je peux vous dire. Là, que ce soit les non-physiciens, mais même les physiciens, ils ont revu la vidéo, etc. Ça reste bluffant. Et même moi, chaque fois, il faut que je me...
Comment il s'appelle cet épisode de votre...
Cet épisode, ça s'appelle un paradoxe mécanique.
Donc, en fait, c'est une illustration mécanique d'un paradoxe identifié par ce physicien.
Tout à fait.
Qui s'appelle Bresse.
Et alors vous avez le même type de paradoxe aussi pour les réseaux de distribution du courant électrique. Sur le fait que quand vous avez les réseaux d'électricité à l'échelle nationale, hein, il faut équilibrer les puissances qui circulent dans les différentes lignes de tension. Et si vous faites pas attention, eh bien il peut arriver que en rajoutant une connexion, vous déséquilibrez le système. Parce que vous vous dites, je vais rajouter de la capacité. Et en fait, en rajoutant cette capacité, vous allez déséquilibrer le système parce que tout le courant veut vouloir passer par un courant plus favorable. Donc on le retrouve en électricité, en mécanique, sur les routes, etc.
Jean-Michel Courty, on parle beaucoup de la pandémie. On parle beaucoup de détecteurs de CO2 qu'on pourrait installer dans les classes ou dans d'autres endroits publics. C'est quoi le principe de ces détecteurs?
Alors, les détecteurs de CO2, c'est une détection optique. En fait, ce qui se passe, c'est que le gaz carbonique absorbe une certaine lumière infrarouge. En fait, c'est comme la comparaison que je veux faire, c'est par exemple, si vous voulez savoir s'il y a de la grenadine dans un verre, ben vous avez la couleur rouge. D'accord ? Vous voyez que c'est rouge. Plus c'est rouge, plus il y a de grenadine. Pourquoi ? Parce que la grenadine, ça absorbe le bleu et le vert, ça laisse passer que le rouge. Bon, et ben pour le gaz carbonique, c'est la même chose, mais dans des couleurs infrarouges. Donc, ce que vous allez faire, c'est que on utilise une lampe qui émet cette lumière infrarouge qui est absorbée que par le gaz carbonique, et on va regarder de combien cette lumière infrarouge est absorbée.
Ce qui donne la concentration.
Ça va donner la concentration en gaz carbonique. Et donc, ça va permettre de savoir... Alors, le gaz carbonique, vous avez 0,04% de gaz carbonique ambiant. On dit 400 ppm partis par million. Ça, c'est ce qui est ambiant à l'extérieur. Là, quand on respire, en fait, on émet une vingtaine de litres de CO2 chacun par heure. Donc, si on est dans une pièce close, petit à petit, le taux de gaz carbonique va augmenter. Et puis, si on ouvre les fenêtres, si on aère, eh ben on va remettre de l'air frais, le taux va diminuer.
Donc ça permet de mesurer la concentration de CO2 due à la présence de personnes qui respirent.
Exactement. Ça permet de mesurer la concentration de CO2 qui est due à la présence de personnes qui respirent. Or, ces personnes qui respirent... Et donc, en fait, ça permet aussi de mesurer à quel rythme l'air de la pièce est renouvelé. Parce qu'en fait, toutes les personnes ont émis la même quantité de CO2 par unité de temps.
Vous dites que le CO2, quand il est trop abondant, détériore nos capacités cognitives.
Alors ça, c'est un effet supplémentaire.
Ça, c'est évident.
Il y a l'aspect Covid, où là, c'est super important de renouveler l'air pour éviter d'avoir les particules. Mais... On va se dire...
D'une façon générale,
même s'il n'y avait pas l'épidémie, en fait, le CO2, dès qu'on a des taux qui dépassent 1000-1500 ppm, on va moins bien réfléchir, moins bien prendre des décisions, moins bien apprendre.
Voilà, on est dans un studio qui fait quelques dizaines de mètres cubes, nous sommes deux.
Oui.
Au bout de combien de temps il faudrait aérer ou évacuer?
Alors j'avais fait mais c'est quand j'ai fait tout seul dans mon bureau qui était moitié moins grand, au bout de
vous avez
3,
fait un calcul avec 10 mètres cubes, j'ai vu.
Oui, mais j'ai plus de tête, mais c'était 20 minutes en gros.
20 minutes, ouais.
20 minutes pour 10 mètres cubes.
Bon, ça va, l'émission dure 5 minutes.
C'est l'émission, bon. L'émission, ça va, puis là on est bien, il y a de l'aération.
Je n'ai pas senti de dégradation de vos facultés cognitives pour l'instant.
Ça va, jusque-là ça va.
Et donc ces dispositifs pourraient être installés dans les écoles et partout ailleurs?
Bah en fait, ce qui serait bien, c'est de pouvoir mesurer... Alors on n'est pas obligé de l'installer tout le temps en permanence. Moi par exemple, mon amphi où je fais cours, j'ai mesuré 2-3 fois et je m'aperçois que je suis à 650 ppm même si mon amphi est plein. Donc ça veut dire que je suis tranquille et je vais vérifier de temps en temps. En revanche, dans des salles plus petites, avec plus de monde, bah ça vaudrait quand même le coup de voir régulièrement la concentration de CO2 pour pouvoir aérer quand il le faut, et notamment dans les locaux d'enseignement. Parce que je vois, enfin en tout cas chez nous, maintenant les précautions ont été prises, mais on monte très rapidement à des taux où on va se sentir un petit peu endormi, un petit peu assoupi. Souvent on met ça sur le coup de la chaleur, bah en fait c'est plutôt le CO2.
Est-ce que vous chantez Jean-Michel Courty?
Ah, j'ai eu chanté, mais...
Est-ce que vous êtes capable de chanter deux notes à la fois, deux notes différentes à
la
fois?
Ça a été mon rêve. C'est mon rêve. J'ai essayé des milliers de fois. J'ai vu donc en fait, il y a des moines tibétains qui font ça. Et puis là, il y a une chanteuse qui fait du chant diphonique, je sais plus son prénom, c'est Kefele, son nom de famille, qui a fait des vidéos fantastiques où elle est capable de faire deux notes en même temps avec sa bouche.
Alors physiquement, ça se fait comment?
Alors physiquement, ce que vous allez faire, c'est quand on fait juste une note, on a les vibrations du larynx, et puis on a un résonateur qui est la bouche. Et c'est la taille et la forme du résonateur qui va fixer la hauteur de la note, un peu comme la flûte, la longueur du tuyau. Eh bien, ce que les chanteurs de chant diphonique sont capables de faire, c'est qu'avec la langue, ils vont séparer leur cavité en deux et pouvoir avoir une première cavité qui va donner la note, une première note, et l'autre cavité qui va donner une deuxième note. Et donc, en changeant la taille soit de l'une, soit de l'autre, ils peuvent changer séparément la hauteur des deux notes qui sont émises.
Mais c'est un travail musculaire, donc?
C'est un travail totalement musculaire, oui.
Et qu'est-ce qui fait que certaines personnes y arrivent, et d'autres, même si elles essayent très longtemps, n'y parviennent pas? C'est la structure du...
Non, là, je pense que c'est après, c'est... C'est long. Moi, enfin, j'ai essayé comme ça, sans avoir de conseils de prof, de sensations. Je pense qu'il y a des exercices à faire qui doivent permettre de l'apprendre. Mais c'est vraiment l'agilité à l'intérieur de la langue, pouvoir réussir à contrôler toute la forme que prend la langue, devant, vers l'arrière. Ça reste magique, tous ces trucs-là.
Quelle est votre prochaine idée? Sur quoi va porter soit la prochaine chronique Non, pour la science, soit la prochaine vidéo que vous allez mettre sur votre chaîne Merci la physique.
Alors la prochaine chronique dans pour la science, c'est sur le plasma qu'on peut faire dans un four micro-ondes en mettant deux grains de raisin côte à côte.
Le plasma.
On peut faire un plasma dans un four micro-ondes. Je ne le conseille pas, mais on peut. En fait, quand j'ai fait la vidéo sur la cuisson des pommes de terre, on s'aperçoit que au milieu de la pomme de terre, il y a un point chaud. Parce qu'en fait, à l'intérieur de la pomme de terre, ça fait comme un résonateur pour les micro-ondes. Et alors, quand vous mettez deux pommes de terre côte à côte, vous allez avoir, entre les deux pommes de terre, un couplage entre les ondes évanescentes, c'est-à-dire les ondes qui sont à l'extérieur de la pomme de terre, qui va être extrêmement important, et qui va faire une zone dans laquelle vous allez avoir un champ extrême micro-ondes extrêmement intense. Et donc, si dedans vous avez de l'eau avec un peu du sel, du sodium ou du potassium, ce que vous avez quand vous avez un fruit ou quelque chose comme ça, eh bien, ça va ioniser et faire des couleurs magnifiques.
Merci Jean-Michel Courty, c'est terrible, il faut se quitter. J'ai beaucoup d'autres questions à vous poser, mais j'irai voir vos vidéos, j'irai lire vos chroniques dans Pour la Science. C'était Question de Science par Étienne Klein, ou plutôt Science en Question, pardon, par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Florent Bujon et à la réalisation Luc-Jean Reynaud, pardon. Je les remercie tous. Tout de suite, c'est-à-dire de façon ultra imminente, nous retrouvons Bruno David pour le pourquoi du comment.